Ministre, bonsoir. Quelles sont les attributions du ministère du Développement Rural? Quels sont les grands défis de ce ministère? Comment améliorer les conditions de vie des populations rurales? Quelles sont les solutions pour créer de l'emploi et réduire la pauvreté? Quelles sont les solutions envisageables pour répondre aux besoins des paysans à court, moyen et long terme? Nous en parlons ce soir avec Mouindo Nzangi, ministre d'État, ministre du Développement Rural. Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Vous êtes déjà très très nombreux, auditrices et auditeurs de Radio Okapi, à envoyer vos réactions. Christian Kapila Kankonde, que le ministre Mouindo Nzangi, en charge du Développement Rural, nous donne avant toute chose son bilan depuis qu'il a accédé à ce ministère. Qu'est-ce qu'il a déjà fait et qu'est-ce qu'il compte faire en matière de développement rural? Emery Nzanzou, à l'invité spécial de Dialogue entre le Congolais, quel est son plan d'action pour l'électrification des zones rurales qui sont dans le noir depuis longtemps? À Kananga Kasaï Central, vous nous suivez sous la 93.0. Et si vous êtes en dehors de la RDC, rejoignez-nous sur www.radiocapi.net, sur DSTV, canal 867. Vous avez la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Monsieur le ministre Mouindo Nzangi, ministre d'État, ministre du Développement Rural, la première question que les Congolais se posent est celle de savoir quelles sont les attributions de votre ministère.
Alors c'est simple, nous sommes un ministère qui n'est pas beaucoup connu.
Exactement.
Il n'est pas beaucoup connu parce qu'il a évolué pendant longtemps dans l'ombre du ministère de l'Agriculture. Mais depuis 1979, il a été pour la première fois séparé du ministère de l'Agriculture, mais c'était le ministère clé du gouvernement. Je voudrais que les Congolais le sachent. Et pendant trop longtemps, c'était un ministère qui n'a pas bénéficié de l'attention du gouvernement, qui n'a pas eu un budget conséquent, puisque c'est un ministère qui doit faire des travaux d'infrastructures dans les milieux ruraux. Alors, quelles sont nos attributions? Nous avons la première attribution, c'est que le ministère du Développement Rural, c'est le ministère qui conçoit des projets de développement en milieu rural. Il a aussi le rôle de coordonner les actions de développement en milieu rural et il a des attributions spécifiques que je peux résumer à 5. La première attribution, c'est que c'est le ministère qui a la charge d'encadrement des agriculteurs ou de toutes les autres activités économiques en milieu rural à vue de les aider à accroître leur production. La deuxième attribution majeure, c'est que c'est le ministère qui planifie au sein des villages, des collectivités, des communes, planification des actions de développement et qui s'occupe de l'aménagement des petites infrastructures économiques et sociales en milieu rural, notamment les marchés, notamment par exemple les stades, les organisations d'activités sportives culturelles en milieu rural. Ça sont les deux premières attributions, mais les plus importantes qui concernent les infrastructures, elles sont à 3. D'abord, 1, le ministère du Développement Rural a la charge de construire, de réhabiliter, d'entretenir les voies de desserte agricole. Et quand on parle de voies de desserte agricole, il y a les routes de desserte agricole, il y a les voies navigables de desserte agricole et il y a les pistes d'atterrissage de moins de 1000 mètres. Deuxième infrastructure à faire, qui constitue effectivement la quatrième mission, c'est l'électrification rurale. et il fait l'électrification rurale et périurbaine en collaboration avec le ministère ayant les ressources, ayant l'électricité dans ses attributions. Donc, à terme très clair, c'est le ministre du Développement Rural qui a la compétence de construire en milieu rural des petites centrales hydroélectriques ou des centrales photovoltaïques, et ainsi de suite, qui ont la capacité de moins de 1 MW. Et puis, la dernière chose, c'est que le ministre du Développement Rural s'occupe de ce qu'on appelle l'hydraulique rurale. Et l'hydraulique rurale concerne deux branches. La première branche, c'est d'apporter de l'eau potable à la population en milieu rural. C'est de l'eau pour la consommation, l'eau pour l'utilisation domestique, mais aussi faire ce qu'on appelle les aménagements hydro-agricoles. Ça veut dire pour permettre à la population de ne pas dépendre totalement de ses eaux culturales, le ministère du Développement Rural a dans ses compétences la possibilité d'aménager des endroits avec le drainage de l'eau pour permettre effectivement à la population de pouvoir l'utiliser dans le cadre de ses saisons culturelles. Voilà un peu à résumer les missions les plus phares du ministère du Développement Rural, comme je vous l'ai dit.
En un mot, si on peut dire que c'est de concevoir des projets de développement au milieu rural.
Ça, c'est concevoir, mais exécuter aussi.
Exécuter aussi.
Donc, concevoir et exécuter, mais comme je vous l'ai dit, effectivement, je vous cite, et bien évidemment, les infrastructures qui sont dans les compétences exclusives du ministère du Développement Rural. Bien que, effectivement, nous avons beaucoup de projets. Par exemple, on a des projets d'éducation qu'on peut faire en collaboration avec le ministère de l'EPST dans le cadre de la construction des écoles, effectivement, de l'assainissement en milieu scolaire. On fera des instructions. On a dans le cadre de l'interministérialité avec le ministère de la Santé, on collabore, nous avons des projets de construction des hôpitaux et ainsi de suite, mais les missions principales pour lesquelles nous avons des compétences exclusives, effectivement,
c'est l'eau, que vous avez
c'est l'eau, l'électricité et les voies des dessertes agricoles à milieu rural.
Alors, vous venez d'effectuer une visite ou une tournée dans quelques provinces de la RDC, monsieur le ministre. Quelle est l'image que vous gardez de l'intérieur du pays en tant que ministre du Développement Rural? Qu'est-ce que vous avez constaté?
Je ne peux pas avoir le complexe de dire ce que j'ai vu sur terrain, effectivement, comme ce ministère a été trop longtemps délaissé. L'intérieur de la République démocratique du Congo a été abandonné depuis trop longtemps. Je parle d'abandon parce que quand j'ai pris les rênes de ce ministère, j'ai pris le courage de commencer par d'abord visiter les provinces que les gens ne visitent pas. Puisqu'il y a des provinces un peu plus accessibles, les gens veulent bien aller à Kolwezi, à Goma, ça fait très beau, les gens veulent bien aller à Lubumbashi, à Kisangani, et ainsi de suite, mais il y a des endroits où les gens n'arrivent pas. Donc j'ai pris d'abord, avant de pouvoir consolider l'ensemble des projets que j'ai conçus dans le cadre de ces ministères, je me suis dit, il faut que moi-même j'entre en contact avec les vrais endroits où les gens sont vraiment en détresse. Je suis allé au Bazouélé, je suis allé dans le Nord Ubangi, je suis allé dans le Sud Ubangi, je suis allé dans la Mongala, je suis allé dans le Sankourou, je suis allé dans le Olomami. Je suis allé au Kasaï oriental, puisque il faut qu'on en parle. Je suis allé dans le Kasaï central. Et là, effectivement, je me prépare à aller à Maïndombe, là où je vais lancer la première partie du projet.
Vous avez vu la souffrance des populations rurales.
Je ne parle pas de la souffrance, de l'abandon. C'est-à-dire que vous avez le peuple qui s'est ça complètement abandonné. Puisque, d'abord, la première chose qui n'existait pas, c'est que vous n'avez pas de route. Pas du tout. Pas du tout. J'ai fait périple de Mugalo à Bouamanda. Je suis arrivé à Gemena. Je suis allé à Akula. J'ai traversé la rivière Mongala. J'ai fait Akula du côté du Teton de Lissala. De Akula à Lissala. Je suis allé moi-même avec le véhicule. De Lissala à Bumba. Bumba, vous allez à Bouta. Si je vous dis ce que vous trouvez, c'est inacceptable.
Qu'est-ce qui peut expliquer cet abandon, monsieur le ministre?
Ce n'est pas abandonné à partir d'aujourd'hui. Hein.
Oui, mais qu'est-ce qui peut expliquer cela?
Vous avez des routes qui ont été réhabilitées pour la dernière fois en 1972. Vous avez des routes, je suis arrivé dans les Olomami, trouver des routes qui ont été réhabilitées pour la dernière fois en 1978. Donc vous avez une population qui est dans Benin.
Mais qu'est-ce qui explique que là où il n'y a pas de route, manque de volonté politique.
Ne parlons pas de l'électricité, ne parlons pas de l'eau, parce qu'effectivement là où il n'y a pas de route, je suis même arrivé dans des endroits où les projets de 145 territoires n'ont pas pu démarrer puisque c'est impossible de pouvoir faire quelque chose. Donc c'est ça l'état global, l'état général. Je ne peux pas avoir honte ou le complexe de le dire de cette manière-là. C'est un abandon qui date de plusieurs temps. Mais la situation ne peut pas rester dans cet état-là. C'est pour cela, effectivement, qu'il est fort de toutes ces constatations qu'on a pu faire dans le pays. Nous avons présenté au Conseil des ministres 5 grands projets.
Pour améliorer les conditions de vie des populations rurales?
Pour essayer de démarrer l'amélioration. On ne peut pas vous dire ici, par démagogie, vous dire qu'on est capable, en moins de 5 ans, de pouvoir inverser complètement la tendance dans une situation qui a été d'abandon total dans laquelle la population a vécu pendant plus de 60 ans.
Mais monsieur le ministre, voilà. Dites-moi, est-ce que vous pouvez me répondre, qu'est-ce qui peut expliquer cet abandon? C'est un manque de volonté politique?
Non,
manque de moyens, c'est quoi?
C'est-à-dire que nous avons...
Pourtant, pendant la campagne électorale, on voit tous les politiciens descendre en milieu rural pour avoir les voix des électeurs. Une fois au pouvoir, on abandonne tout ça.
Je me suis même posé la question comment les gens font la campagne. Je suis arrivé dans les Sangourous, vous m'avez suivi parler aux médias, dire que voilà, en tout cas, la situation doit s'arrêter. Parce que ce que j'ai vécu, ce que vous arrivez, même déjà au chef-lieu de la province, que vous n'avez même pas la possibilité de trouver un véhicule qui vous prend à l'aéroport, au chef-lieu d'une province, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit, ce que je veux dire. Ça veut dire que vous avez des entités qui sont complètement isolées, où les gens ne peuvent pas accéder à tout ce qu'il y a comme ressources. Arrivez dans des villages où les gens vous disent nous ne pouvons même pas avoir du sel. Donc je vous dis que c'est un état d'abandon qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est pérenne. Je me pose même la question comment les gens font la campagne, mais ça doit s'arrêter. Moi c'est le message d'espoir. Je ne reviens pas sur l'arrière. Si je reviens sur l'arrière, je vais faire des analyses comme un technicien de développement. Je vais seulement dire que le pays a été fortement centralisé. Le pays, au niveau, les provinces n'ont pas beaucoup fonctionné. Les ministères comme le développement rural ou l'agriculture n'ont pas, pendant beaucoup de temps, n'ont pas eu assez de moyens pour pouvoir faire leur travail. Ce qui fait que les services qui devaient, ou les ministères des infrastructures et des travaux publics, effectivement, je ne dois pas l'oublier, ce qui fait que sur le terrain, depuis trop longtemps, la population a été abandonnée à elle-même.
Et quels sont les 5 projets? On va y aller un peu rapidement, hein, monsieur le ministre. Quels sont les 5 projets que vous avez présentés au Conseil des ministres?
Pour la première fois, je suis seul dans cette émission ici. Et donc, je crois que j'ai tout le temps de pouvoir...
Vous n'avez pas tout le temps, parce qu'il y a les auditeurs qui ont des questions à vous poser. On doit rester dans le temps.
De pouvoir dérouler. Je voudrais dire que résumément, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, nous demande avec insistance de pouvoir commencer à régler. Il a commencé par le premier projet de PD145 territoires. Je crois qu'il s'est concentré dans sa première phase sur les écoles, les centres de santé et les bureaux administratifs. C'est déjà quelque chose que vous voyez au chef-lieu de territoire. Au moins vous avez un bureau administratif qui fonctionne, puisqu'on est arrivé à des endroits où là où la différence de territoire se trouve, c'est la catastrophe. C'est déjà la première phase, bien que le projet a connu au cours de l'exécution des difficultés liées effectivement aux infrastructures. Et nous, on vient avec le projet qu'on a appelé PADER, ce qui est Programme d'appui au développement rural, avec 5 projets phares. Le premier projet que je porte à cœur, que j'ai présenté au Conseil des ministres au cours de la 3e réunion ordinaire du Conseil des ministres, c'est le projet de promotion des voies navigables des dessertes agricoles. Lorsque j'ai fait le tour du pays, je me suis rendu compte, effectivement c'est une évidence, je me pose même la question, pourquoi on n'a pas pu et soulever cette question depuis trop longtemps. 65% du pays ou des territoires de ce pays, donc 94 territoires sur les 145, sont connectés à Kinshasa par l'eau. Et ça, c'est un atout majeur. Parce qu'effectivement, nous sommes un pays très immense et qu'il est très coûté de pouvoir faire les routes. Mais il est moins coûté de faire les voies navigables. À titre de comparaison, pour baliser les cours d'eau, vous avez besoin de $4,000 au kilomètre. Alors que pour réhabiliter une route, vous êtes une piste rurale, une piste de desserte agricole, vous êtes dans des fourchettes entre 15, 20, 25 ou même 32 000 km, ça dépend de chaque route. Ça coûte cher, alors que l'eau, à navigation naturelle, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'entretien. Il suffit que vous puissiez sécuriser l'eau par les balisages en disant voilà, c'est ici où vous avez tel tirage, c'est ici où vous avez telle profondeur. Vous en avez pour beaucoup de temps et des entretiens réguliers qui ne coûtent pas cher, alors que les pistes, elles coûtent cher. Donc pour moi, la promotion des voies navigables comme moyen d'évacuation des denrées alimentaires, des produits agricoles qui sont faits dans cette zone qui est déjà connectée à Kinshasa, au grand centre de consommation par l'eau, c'est ça la priorité. Et donc nous avons fait un projet et la bonne nouvelle,
mais il n'y a pas que Kinshasa qui intéresse.
Je vais y aller de manière, puisque j'ai fait, si vous trouvez ce projet, c'est des projets vraiment qui essaient d'être le plus intégrateur possible de la problématique de développement du pays. Et donc nous avons fait le budget, et heureusement pour nous, le ministre des Finances a été sa cible. On a déjà une partie de ce budget qui a été rendu disponible. Et avec cette partie du budget, nous avons dit, nous y allons bassin par bassin. Le premier bassin que nous prenons, c'est le bassin du Kassai. C'est-à-dire que nous allons commencer le travail systématique de balisage avec l'accompagnement, effectivement, de la RVF et l'OVDA pour le Kassai. Ça veut dire que vous avez le branchement de la Lukeni qui va jusqu'à l'Odja. Donc, si nous terminons ce travail de balisage,
ça commence déjà.
Non, mais ça commence la semaine prochaine. On va aller faire le lancement à Banoudouville. Donc, vous avez la Lukeni qui vous permet de pouvoir désenclaver la grande partie de la province de Maïndombe et la province de Sangourou. Vous avez la rivière Sangourou qui vous permet de désenclaver une grande partie de la province du Kassai, du Kassai central et du Kassai oriental, pour ceux qui n'ont pas de formation, par exemple. La rivière Lubi, qui a le branchement sur la rivière Sangourou à partir de Lusambo, elle va jusqu'à Ndomba, le port de Ndomba qui est à 45 km de la ville de Bujimaï. Donc vous comprenez qu'avec les bateaux qui vont quitter plus facilement Kinshasa pour aller à Bujimaï, ça apporte déjà une réponse à l'englavement de ces entités avant même de pouvoir finir les travaux des routes. Donc vous comprenez l'importance de faire ces voies navigables. Ça, c'est le premier projet. Je viens de dire qu'il concerne 94 territoires.
Deuxième projet,
c'est le projet d'urgence de réhabilitation des routes de desserte agricole. Il a une dimension plus particulière, celle du désenclavement. Nous avons voulu et nous avons obtenu à partir du Conseil des ministres que dans cette phase de réhabilitation de ces 11 400 kilomètres qui nous ont été accordés, nous allons privilégier le désenclavement des chefs-lieux des territoires vers les chefs-lieux des provinces. C'est-à-dire que vous avez plusieurs provinces, pratiquement toutes, à l'exception de quelques provinces à l'est et au sud, vous avez pratiquement toutes les provinces où les chefs-lieux aucun chef-lieu de territoire n'est relié au chef-lieu de la province. Donc, on va prendre les axes, notamment des routes provinciales qui relient les territoires aux provinces et leur branchement des routes de cette agricole comme la première phase de ce projet. L'objectif pour nous étant de relier les producteurs aux consommateurs.
Et donc, est-ce qu'il y a déjà un budget pour donc, la réhabilitation des routes de desserte agricole?
Nous avons fait le budget, il a été répondu à un certain pourcentage.
Combien?
Un certain pourcentage de 25%, on a mis à notre disposition. Et nous voyons la volonté, en tout cas le chef de l'État met de la pression la plus nécessaire pour que ces moyens soient mis à notre disposition pour que nous puissions, en tout cas dans les 2 à 3 ans qui suivent, être capables de pouvoir les réhabiliter. Mais la question qui se pose toujours et qui se posera, puisqu'il y a eu beaucoup de projets de réhabilitation des routes de dessertes agricoles, mais après 2 ans, 3 ans, les routes ont disparu. Et donc le chef de l'État a mis en place un mécanisme pour que l'OVDA, qui est l'office qui dépend de nous dans le cadre de la réhabilitation des routes, puisse acquérir des équipements qui pourront lui permettre de manière répétitive à faire des interventions sur toutes ces routes qui vont être réhabilitées. À ce moment-là, on sera rassuré qu'avec les fonds que l'OVDA reçoit des FONER, effectivement, avec les équipements propres, il sera capable de pouvoir réhabiliter les routes. Effectivement, il y a un autre volet de cette question qui est la question du changement de mentalité, puisque vous avez des provinces où vous avez des équipements, par exemple de l'office des routes, ou des équipements pour l'OVDA, vous avez des routes qui sont abîmées, vous avez des fonds qui viennent des FONER, mais les gens ne travaillent pas. Donc il est question aussi de mettre en place ces mécanismes de contrôle, mais aussi une véritable campagne de changement de mentalité, puisqu'on doit aimer ces pays si on veut qu'ils puissent avancer.
Troisième.
Le troisième projet, c'est un projet d'adduction d'eau potable en milieu rural et périurbain. Ce projet, c'est un projet ambitieux que nous avons construit sur base de l'expérience des prises. Prise qui est un projet qui fonctionne au sein de notre ministère pendant plus de 5 ans et qui a réalisé des infrastructures d'eau, notamment dans la zone centre, qui sont des infrastructures qui ont un caractère innovant. C'est-à-dire qu'il s'agit de choisir les grandes agglomérations, des agglomérations qui ont plus de 15 000 habitants. En milieu rural, notamment les chefs-lieux des territoires, les communes et les autres, qui, dans la plupart des cas, n'ont pas d'eau, on y met un mini-réseau. Un mini-réseau, ça veut dire, il consiste à pouvoir capter de l'eau dans une source propre, ou carrément faire un forage à très haut débit, avoir des installations électriques, notamment photovoltaïques, qui tirent l'eau et qui mettent l'eau dans un château d'eau qui est construit sur base de la capacité, effectivement, des villages. Nous avons par exemple pris à réaliser à Miabi et château d'eau de 150 mètres cubes. On a d'autres endroits. Vous m'avez vu au Sangourou aller superviser les travaux et par exemple à Lomela, à Benadibele, avec des châteaux d'eau de capacité de 200 mètres cubes. Et ça, pour alimenter toute la population par un mini réseau. Nous avons par exemple à Tchilingué un réseau de 7 km. Nous avons à Miabi un réseau de 14 km. On a à Lomela, on est en train de faire un réseau de telle manière que les femmes, puisque c'est elles qui sont malheureusement, qui vont à la rivière là des vallées, qu'elles puissent avoir la possibilité d'avoir de l'eau à proximité de leurs habitations. Et donc c'est un projet qui est porté par nous-mêmes. Nous avons signé un arrêté interministériel avec le ministre des Finances dans lequel nous avons fait un appel à un financement qui va devoir nous aider à les installer au même moment dans tous les pays. Et ça va être une véritable révolution pour les 375 entités qui ont été choisies pour cette première phase du projet.
Alors ça risque pas d'être comme la terre des forages. Alors
quatrième et le cinquième projet, c'est des projets maintenant qui viennent toucher au portefeuille. Puisque on peut faire les routes, on peut bien faire les voies navigables, on peut bien construire des marchés, mais si la population ne produit pas, on va se retrouver devant un problème. Je suis arrivé sur la route de Kabeya-Kamwanga, et un endroit qu'on appelle Kipoko, je crois, c'est le nom que... Alors j'ai rencontré un marché qui a été très bien construit dans le cadre du projet PRISE. Et il n'y avait personne dans le marché. Et même les gens que j'ai trouvés au marché, là, il n'y avait que des mikékés qui viennent, des mikébouka qui viennent des trucs. Il n'y a aucun produit local dans ces marchés-là. Et ça, c'est inacceptable. Donc, il faut, en tant que ministère du développement rural, faire la promotion de la production locale pour que tous les marchés qui sont construits là, les gens puissent y vendre, bien évidemment, des produits qu'ils produisent, ce qu'il faut faire localement. C'est-à-dire qu'on a un projet pour les maraîchers, qui concerne les zones périurbaines. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez Goma, autour de la ville de Goma, on peut produire des produits maraîchers, des carottes, des légumes, des fruits, hein, pour ne plus dépendre effectivement de ce qui vient de Gisenyi. Ici à Kinshasa, vous avez des avions qui viennent, des 747, des avions qui viennent avec des fruits, des oranges, hein. Vous avez des avions qui viennent de l'extérieur, de l'Afrique du Sud, avec des pommes, ainsi de suite, et d'autres légumes qui sont vendus dans les supermarchés, alors qu'autour de l'interland de Kinshasa, nous avons 8000 hectares qui dépendent du ministère du Développement Rural, je voudrais bien le dire, ou qui ont été réservés pour faire les légumes et les fruits. Donc nous voulons ressusciter ce secteur par ce projet qui va consister à un appui massif à semences, en engrais, à conservants, à un instrument de lavage pour aider les maraîchers autour des villes à pouvoir approvisionner la ville. Ça va créer de l'emploi, ça va créer de l'économie. Et ça va devoir améliorer.
Alors, on espère que ça ne sera pas des promesses non tenues, monsieur le ministre.
Et le même projet, on va le faire pour les milliers ruraux. Ça consiste à appuyer dans chaque territoire ce qu'on appelle les CDA, les centres de développement agricole, dans lesquels, effectivement, on va faire un appui pour certaines familles, un hectare, à pouvoir produire de manière intensive les produits qui sont les plus consommés localement, et à appuyer un agrégateur qui va devoir faire une petite transformation locale avant d'amener au marché. Alors, voilà ce que nous avons prévu.
Ok, on va vous redonner la parole. Cette émission est interactive, hein. Les auditeurs sont très nombreux à suivre cette émission, et il y a beaucoup de questions pour vous. Il y a des questions et des réactions, bien sûr. Il y a l'ONG Green World RDC qui dit que le troisième projet d'adduction d'eau potable avait déjà été lancé par l'ancien ministre Robota. Il y a certainement à certains endroits, c'est en construction, voilà, mais dans certains autres endroits, les projets ont été abandonnés. Bien fait, Tchiro ou la Baguelwa, le ministre du Développement Rural ne s'est jamais rendu à Bukavu pour comprendre les calvaires que traversent les habitants de territoires de Walungu et Muinga. Il est tellement difficile de quitter Bukavu jusqu'à Walungu, 20 km de la ville de Bukavu, après une trop petite pluie. Voilà, c'est l'auditeur de Bukavu.
Alors,
qui
nous écrit. C'est très rapide, il faut que je
puisse. Rapide,
je vais donner des réponses à quelques secondes.
Oui.
Le premier, oui, il y a un projet qui a été lancé par le ministre Robota. Vous m'avez suivi avant-hier au procès à la cour de cassation. Effectivement, le projet présente des problèmes. Moi, j'ai proposé au gouvernement de pouvoir les fameux dossiers forage. Alors, la deuxième question pour Bukavu, la route qu'il cite là, c'est la RN5 qui n'est pas malheureusement dans mes attributions. Dans le cadre de ces projets, on a pris en compte la route de Fizi-Mwenga. On a pris aussi à compte une bifurcation de cette route-là qui nous permet de monter vers Chabunda, qui est la route, l'une des routes. En tout cas, si tous les moyens sont à notre disposition pour cette phase-ci, comme on nous a donné un peu de moyens, on va essayer de se concentrer dans les zones où on a la saison sèche pendant ce moment ici, donc janvier, notamment la partie nord. On va essayer de la privilégier, puisque là, les travaux peuvent se faire beaucoup plus facilement à cette période ici. Lorsque le deuxième mandat va être mis à notre disposition, bien évidemment, je ne vais pas oublier Bukavu.
Alors, ils sont nombreux, hein, les auditeurs de Bukavu qui vous suivent. Nous demandons au ministre de venir visiter la route nationale numéro 2. Voilà, c'est la même réaction, hein, presque la même réaction que l'auditeur de tout à l'heure. Il n'a encore rien visité jusqu'à présent, sinon c'est une situation dramatique à l'Est. Alors, on va ouvrir le standard aussi pour écouter ces autres auditeurs.
Je suis d'accord que c'est vraiment dramatique.
Il faut aller faire un tour par là, monsieur le ministre. On vous attend, hein, les habitants de Bukavu vous attendent. On va prendre cet auditeur de Kinshasa, Jafet Eonga, qui nous appelle.
C'est Jafet Eonga depuis la ville de Kinshasa. Le ministère du développement rural est parmi les ministères clés du développement d'un pays. Mais dans notre pays, ce ministère est négligé par le gouvernement congolais. Cette dernière décennie, nous constatons le déplacement massif des populations vers les grandes agglomérations à cause de l'absence totale de ces ministères, alors que le développement d'un pays commence au niveau rural. À mon humble avis, les programmes des 145 territoires pouvaient développer les entités ruraux tout en associant ces ministères, car dans ces ministères, il y a des experts qui peuvent accompagner les actions du gouvernement dans ces zones. Ma question est de savoir pourquoi le ministre du développement rural ne mène pas des actions auprès du gouvernement pour empêcher le déplacement massif de la population. Quelle politique utilise le ministre pour chercher à développer ce secteur? Quels sont les budgets alloués par le gouvernement pour soutenir ce ministère?
Alors, vous répondez à cet auditeur ou bien on prend un autre
question? Non, cet auditeur, je le remercie beaucoup. Il a tout dit. Au sein du ministère du développement rural, effectivement, j'ai retrouvé qu'il y a de la technicité. Et parmi les problèmes que nous avons là-bas, c'est que la plupart des projets ont été menés au sein du ministère, sans l'administration du ministère. C'est pour cela que dans les projets que nous sommes en train de mener, effectivement, on est en train de faire de tous ces techniciens du ministère du développement les socles des projets. Comme ça, ils pourront les pérenniser. Il a raison et je crois que ça doit changer et ça va changer.
Alors, il demande quels sont les budgets ou quel est le budget alloué, le budget alloué par le gouvernement au ministère du développement.
En tout cas, cette année et l'année prochaine, nous avons, même si ça reste minime, mais nous avons 1 700 milliards de francs congolais. Et donc c'est un budget honorable puisqu'il représente pratiquement 8% du budget de
l'État. Est-ce que ça va vous aider à concrétiser?
Et le projet que nous avons mis en place, effectivement, il correspond à ce montant. Si cet argent est libéré, je crois que la première phase de notre projet, notre programme, va être exécuté et la population va voir effectivement les résultats.
On va prendre ce deuxième auditeur de Kinshasa, toujours.
Junior Bongo, depuis la ville-province de Kinshasa. Par rapport à la thématique de ce jeudi 5 décembre 2024, des questions taraudent mon esprit, à savoir, quelles sont les mesures concrètes mises en place pour améliorer l'accès aux infrastructures de base dans les zones rurales, notamment en matière de routes et d'eau potable. Je me demande comment le ministère envisage-t-il de renforcer la formation et l'accompagnement des jeunes ruraux afin de favoriser leur insertion professionnelle et leur lutte contre la pauvreté.
Je crois que j'ai répondu à cette question par tous les projets que je viens de vous présenter.
Les jeunes.
Et comme vous le savez,
il y a une question par rapport aux jeunes, l'accompagnement des jeunes.
J'ai parlé par exemple des projets de maraîchers ici. Je parlais des femmes. Et il y a des jeunes femmes. Moi, je suis allé moi-même en Djili Sekomaf. Je suis allé moi-même visiter plusieurs sites des maraîchers. Et j'ai vu des jeunes filles qui se lancent dans les légumes, qui se lancent dans les fruits. Et donc, c'est ça. Vous savez, l'agriculture, si nous ouvrons les infrastructures qui permettent à tout le monde de pouvoir évacuer ces produits vers les centres de consommation, il y a beaucoup de gens qui n'auront plus de place ici. Ils vont eux-mêmes aller, puisque c'est plus facile de se faire l'argent, mais ce sont les moyens d'évacuation. Et c'est pour cela que nous mettons beaucoup d'accent sur les premiers volets de ce projet ici, les voies navigables et les routes de cette agricole. C'est très important. C'est le catalyseur même du développement. Il n'y a pas de développement sans route.
Alors, il y a un auditeur qui a posé la question sur l'exode rural.
Et il a raison, puisque ce que moi j'ai vécu, je me suis blessé, hein. Vous savez, c'est très compliqué, hein. Le pays est vraiment dans des difficultés. C'est lui qui avait dit qu'il est vraiment un Koufakala. À un certain moment, c'est, en tout cas, en milieu rural, on peut parler de mort. Donc, quelqu'un ne peut pas rester là-bas. Et donc, ce que nous avons comme responsabilité, c'est de faire en sorte qu'on fasse des projets qui permettent aux gens de dire, voilà, qu'est-ce que je vais aller chercher à Kinshasa? Si je peux produire ici le moment Tembélé, les vendre dans un centre de consommation, si je peux avoir aussi les courants à côté, si je peux avoir de l'eau et une école à côté. Je crois que c'est de ça. Si nous renforçons, comme le prévoit notre programme ici, si nous renforçons ces infrastructures économiques et sociales à milieu rural, ça va être très rapide. Les gens, même ceux qui sont déjà à ville, ils vont avoir envie de rentrer dans les villages.
Alors, les questions, il y en a tellement beaucoup. Monsieur le ministre, Marco
Ça veut dire
Pierrot.
Je suis très content, puisque Marco... maintenant, on s'intéresse au développement rural. Et c'est ça. On ne peut pas devenir... Vous savez, 70% de la population est en milieu rural. Donc, on ne peut pas parler du Congo si on ne parle pas du ministère du développement rural. Pour moi, c'est le plus grand ministère du gouvernement.
Alors, il y a Marco Pierrot Moukoutou qui demande pourquoi le ministre n'a pas pensé à ressusciter l'usine de fabrication d'huile des palmes brutes qui se trouvait au Grand Bandundu, au Kwilu à l'époque.
Il y a un grand projet qui est en train d'être fait là-bas. Je suis allé là-bas aussi. Hein. Je suis allé là-bas. Il y a un très grand projet d'huile des palmes qui est piloté par le ministère de l'Industrie. Et nous avons discuté avec les responsables de ce projet. Dans le cadre du projet des agrégateurs ici, il va être le plus grand agrégateur dans cette province-là, puisque nous voulons aussi promouvoir l'agriculture de culture pérenne au sein des populations. Donc, c'est-à-dire que... Je m'excuse de dire dans le territoire de Libaya au Kassai, et je suis arrivé, j'ai vu que dans chaque parcelle, il y avait... Deux tiges seulement de café dans chaque parcelle. Et sur la route, je posais même la question. Je me suis arrêté à un endroit, j'ai posé la question. Pourquoi vous n'avez que deux tiges? Ils ont dit, mais non, ces tiges ici, c'est juste pour le café que nous consommons le soir. Mais imaginez-vous, si les gens qui ont déjà l'esprit d'avoir deux tiges, si nous les encourageons chacun d'avoir 1000 tiges autour de sa parcelle, vous comprenez le boom du café que nous pouvons avoir. Et donc, dans le Grand Bandundu aussi, l'ambition que nous avons, c'est de pouvoir aider une agriculture pérenne paysanne en encourageant les gens à faire de l'eau, puisque l'usine est déjà là. L'usine est déjà là. Et je profite pour remercier mon collègue, l'ancien ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, qui s'est beaucoup investi pour cette usine-là. Mais maintenant, aujourd'hui, on n'a pas encore une production suffisante. Hein, pour pouvoir supporter cette usine. C'est pour cela qu'on doit faire une grande promotion de la culture du palmier dans les Grands Bandundu pour que cette usine puisse commencer à fonctionner.
Alors, monsieur le ministre, je vais vous donner ce stylo et ce papier pour que vous puissiez noter les questions des auditeurs. Il y en a beaucoup. Avant cela, on va faire une petite pause, hein, et puis on revient dans ce studio.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Oscar Bambi, qui nous suit depuis Kinshasa. Bonsoir et félicitations au ministre. Comment on peut différencier tous ces projets au programme du gouvernement de développement des 145 territoires? Première question.
Oui.
Vous notez?
Oui.
Alors, on va prendre la deuxième question. C'est Emery Baloukou Biamungu qui nous écrit depuis Goma. Je salue le courage du ministre du Développement Rural. Nonobstant, nous voulons savoir à quand la construction des forages dans l'est du pays, surtout au sud Kivu et une partie du nord Kivu, vu que $10 millions ont été touchés par certains individus au détriment de la population. À quand la construction et installation des forages en milieu rural. On poursuit, vous répondez, monsieur le ministre.
Allez-y.
Alors, Katembo Mafungula félicite, monsieur le ministre, nous vous attendons aussi au Nord Kivu et plus particulièrement Beni, territoire où les routes sont impraticables. Dites-nous quand vous viendrez faire un tour par là. Achille Kiasongo à Lubumbashi, c'est bien d'avoir beaucoup de projets, mais il faut s'y tenir compte du temps parce qu'il ne vous reste que quelques années seulement pour votre quinquennat, vu qu'il n'y a jamais eu la politique de continuité, sinon tout cela restera lettre morte. Alors, répondez, monsieur le ministre.
Alors, je dis à Oscar, les 145 territoires, c'est la plus grande vision du président de la République. La première phase a déjà été faite. Les 145 territoires n'est... En fait, il n'est pas venu se substituer au ministère. Nous tous, nous nous inscrivons dans cette vision, dans des projets que nous sommes en train de faire. Donc, c'est complémentaire, c'est pas différent. Alors Emery, il dit il y a qu'à les forages à l'est. En tout cas, j'arrive. Celui qui a posé la question sur Beni, c'est le mois de décembre ici que je vais faire le tour dans le Nord Kivu. Effectivement, ça va correspondre aussi avec le projet de lancement de la réhabilitation de certaines routes et de sites agricoles. Et chez lui à Beni, on va y arriver. Alors, il faut tenir compte du temps. Effectivement, vous savez que moi, quand je prends le rênes des ministères, je me fixe des objectifs. Quand j'étais à l'enseignement supérieur, je vous avais dit, ici, j'étais venu ici à Radio Okapi, je vous ai dit, première chose, je vais faire aboutir les LMD. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je vous ai dit, je vais construire des universités.
Qui est quand même critiqué, hein, ce système, monsieur le ministre.
Je suis content qu'on le critique. Quelles que soient les critiques qui sont faites, en tout cas, moi, j'ai fait un objectif. Je me suis fixé un objectif et je l'ai atteint. Les graduats ont disparu. Aujourd'hui, c'est LMD.
Même s'il n'a pas été efficace.
Le reste, je m'en fous. Deuxième chose, je vous ai dit, je vais construire les universités, je les ai construites. Les gens m'ont critiqué, mais ah, Kananga, Kaka, il a volé de l'argent. Aujourd'hui, tout le monde, quand il arrive à Kananga, voit l'université, quand il arrive à Bujimaï, quand il arrive à Bounia, quand il arrive à Lupen, il dit quelque chose a été fait. J'avais dit que je vais lui faire la lutte contre les antivaleurs. J'ai mis fait aussi la bus, j'ai mis fait ces histoires-là, et je l'ai fait. J'ai dit que je vais améliorer les conditions des enseignants. Là, j'avoue qu'il y a des combats que je n'ai pas réussi.
Mais là, vous n'êtes plus à l'essuie. Parlons du développement rural.
Attendez, je parle de moi.
On parle du ministère.
Monsieur Achille a dit, voilà, vous avez beaucoup de projets. Est-ce que vous avez le temps de les faire? Moi, ce que j'ai prévu de faire, par rapport aux moyens qui seront mis à ma disposition, je vais les faire. Et ce que je voudrais lui dire, c'est que je suis nommé pour 5 ans. Et moi, je considère que j'aurai 5 ans au ministère du développement rural, j'aurai atteint mes objectifs. C'est comme ça que j'ai fait une planification qui va faire 5 ans. Donc, je crois que, répondant à Achille, j'ai le temps de pouvoir dérouler cette politique. Et si j'ai les 5 ans, les plus 5 ans, en tout cas, je vous l'ai dit, on viendra ici faire l'évaluation. On aura fait quelque chose.
Alors, monsieur le ministre, c'est des questions hein, pour vous. C'est vrai que ça fait quelques mois seulement que vous êtes au ministère du Développement Rural. Quelles sont les initiatives que vous avez mises en place ou quelles sont les initiatives du ministère pour étendre l'accès à l'eau potable et à l'électricité dans les zones rurales hein?
L'eau potable, je vais déjà vous dire ce qu'on est en train de faire. Pour l'électricité, vous avez vu que je n'ai pas mis le projet d'électrification. Ça étonne tout le monde, mais parce qu'il y a ACER qui est un office qui a été créé, un établissement qui a été créé et qui s'occupe de l'électrification rurale et périurbaine. On est en discussion pour que les projets qui sont portés par ACER et les projets que nous avons nous-mêmes, nous puissions les mettre en symbiose, puisqu'il ne faut pas que nous puissions avoir pour les mêmes objectifs des organismes qui travaillent de manière pas complémentaire. Donc, on va se mettre d'accord avec ACER et nous pourrons annoncer ce qui va être fait, mais c'est les restes. Nous l'avons planifié correctement.
Alors, au-delà de l'agriculture, parce que c'est ça la clé même de votre ministère, si je peux le dire ainsi, quelles sont les opportunités ou les autres opportunités pour créer de nouveaux emplois au milieu rural?
Alors, nous avons les mines, puisqu'il y a, quand on parle des minerais, les gens ne voient que les grandes sociétés, mais nous avons des minerais, des mines. Des minerais, en fait les artisanaux dans le domaine des mines. On a plusieurs endroits, je suis allé par exemple à Yakoma, dans le Nord Ubangi, dans les territoires où j'ai vu qu'il y avait une floraison en fait de l'activité minière, mais à côté une pauvreté indescriptible. Et donc avec le ministère des mines, on est en train de vouloir prendre une initiative pour pouvoir apporter à côté des mines le développement. À côté des grandes mines, vous allez à Fungurume, vous allez passer dans la ville de Fungurume, où vous voyez une pauvreté indescriptible à côté d'une société qui réalise un profit de 1 milliard. Donc on est en train de faire des initiatives aussi comme ça pour que ces facteurs des miniers, notamment les artisanaux, nous puissions intégrer ça comme une activité phare qui puisse produire aussi le développement dans ces zones où on fait les mines. Et nous avons l'artisanat. On a négocié par exemple avec certains organismes pour que par exemple lorsqu'ils ont des commandes, des fours améliorés et ainsi de suite, qui travaillent avec des artisans locaux pour les permettre aussi de pouvoir réaliser des bénéfices dans le cadre de ce qu'il faut comme artisanat. Mais je vous dis, les infrastructures de base que nous voulons construire, notamment les routes et les voies navigables, ça ouvre une porte à plusieurs opportunités dans tous les domaines de pouvoir réaliser des profits et d'accroître les revenus des populations.
On va prendre cet auditeur de Lubumbashi qui nous appelle.
Je m'appelle Chris Pierron Pagna depuis la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Si dans son rôle d'impulsion, de la suivi et de la bonne mise en œuvre de la politique gouvernementale qui doit rester dans la vision du garant de la nation et des institutions du pays, le ministre national de développement rural actuel peut se taper la main dans sa poitrine et nous dire dans la vision politique du gouvernement soubinois les axes prioritaires qui feront de lui, après son mandat, l'un des rares qui se sont succédés dans ce ministère. Quand on parle du programme de PEDEL 145 et territoires, et de certains dossiers sensibles comme celui des forages, dans son rôle de continuité du pouvoir, le ministère du développement rural peut révéler les lignes qui n'ont pas permis à ce projet PEDEL 145 territoires qui était une priorité du gouvernement Samalou Kondé, alors que bien accueilli par la population, mais placé dans les dossiers non classés, sous Soumino, dont les territoires ruraux manquent d'infrastructures. Après plus de 6 mois au sein du gouvernement national, qu'en est-il de l'exode rural, des mouvements, des groupes de jeunes bandits surnommés Kuluna, prise en charge et encadrement de jeunes dans le milieu rural qui devraient faire les axes prioritaires du ministère du développement rural?
Alors, on va ajouter cet autre auditeur qui nous appelle de Lualaba. Voilà. Il est dans la ville de Kolwezi, je pense.
Jean-Noël Wembo Kitenge, depuis le Lualaba. Je viens juste avec deux questions posées au ministre Zangi. Quelles sont les stratégies que lui met en place qui n'avaient pas les autres, ses prédécesseurs, pour qu'enfin qu'il en finisse avec la pauvreté au milieu rural? Et la seconde question, c'est comment compte-t-il s'y prendre pour que ses actions en milieu rural poussent les gens à pouvoir toujours penser à lui après son passage?
Monsieur le ministre, vous commencez par la dernière ou la première?
Oui, la dernière, voilà. Il me demande quel héritage je vais laisser. Je voudrais bien répondre à cette question en lui disant que à la fin de mon mandat, je reviendrai vous dire quel héritage que j'ai laissé. Uh-huh. Je viens de vous dire ici pour l'enseignement supérieur, donc je ne peux pas parler maintenant, mais il a vu les projets, et moi je crois que tous les projets que j'ai élaborés sont importants, quand les gens vont voir les résultats des projets que nous avons faits. Par exemple, le projet de voie navigable ici, on est en train de travailler...
Ça va réduire la pauvreté dans les milieux...
Bien sûr! Vous avez vu que j'ai parlé... Dans le cadre de l'interministérialité avec mon collègue de l'industrie et de PME, pour que nous puissions, par exemple, partout où on fait les balisages, on appuie les armateurs, mais ça c'est lui qui va les faire. On construit des entrepôts et puis on construit les baleinières et les bateaux pour éviter tout ce que nous avons comme accident électrique. On va faire un système d'esprit de vie dans lesquels l'État appuie la construction des bateaux et la construction des baleinières, et pour que les armateurs puissent remplacer leurs vieilles carcasses par des choses qui sont correctes. Et donc vous allez voir les trafics que cela va générer, c'est ça l'héritage qui va être laissé. Je crois qu'on me demande la stratégie, je viens de vous parler de ce que je vais faire, ça fait partie de la stratégie que nous allons faire. Nous allons faire la semaine prochaine les grands lancements de ce projet dans la province de Kwilu, à Banouville. On va faire des grands lancements de ce projet avec le peu de moyens qui sont déjà à notre disposition. Vous allez vous-même voir ce que nous allons commencer à faire. Et ça, on promet aux Congolais que la grande différence que nous avons, peut-être avec ce qui a déjà été fait avant, c'est que nous sommes très rigoureux en matière de gestion des finances. Et je crois que les contrôles, nous les faisons de manière... Nous avons un contrôle de proximité qui nous permet d'aller très vite lorsque les moyens sont mis à notre disposition.
Alors la question de Mpanya, je pense que vous y avez déjà répondu, c'est concernant les jeunes, hein, comment occuper les jeunes dans les qui sont au milieu rural. Il y a actuel Victor Lukusa qui nous suit depuis Mbujimayi au Kassa oriental. Et dès qu'il a comme l'impression que Monsieur le ministre, on n'est pas que là où il y a ses amis ministres dans les territoires.
Non, je voudrais lui dire que j'ai été chez lui au Kassai oriental, je suis allé visiter, je suis allé à Tshilenge, je suis allé à Miabi, je suis allé à Kabeya Kamwanga et je suis en train de réhabiliter, il peut déjà aller vérifier la route qui quitte Kabeya Kamwanga, l'endroit qu'on appelle Benakuna, jusqu'à Mupomba, qui va jusqu'à la gare de Moutefou. Il peut y aller maintenant, il va voir les travaux de réhabilitation de cette route, ils sont à court. Je suis en train de j'ai déjà lancé les travaux qui vont au port de Ndomba. Et j'ai un obstacle des ports, je suis en train de trouver le moyen pour faire ce port-là, puisque je voudrais effectivement qu'on puisse connecter les ports correctement, puisque ce qui s'est fait là, c'est la petite route là de 45 km n'était pas en bon état. On est en train de le faire. Donc, on a passé aussi à lui, qu'il aille vérifier, et puis qu'il me recontacte si les travaux n'évoluent pas bien.
Pacifique Kiabamba, concernant le Grand Kassai, le ministre parle plus du Kassai oriental que d'autres, notamment la province du Kassai. Est-ce parce que c'est la province du président?
Nous demandons... Je peux le tranquilliser. J'ai été à Kananga et je peux lui dire, quand je parle de la gare de Moutefou, ce n'est pas au Kassai oriental, c'est au Kassai central. Je voudrais bien lui dire, effectivement, parmi les choses que je compte faire, je vais faire un voyage à Tshikapa. Et je vais entrer à l'intérieur de ces territoires-là, puisqu'on a des bretelles, des routes que l'on voudrait faire, qui se connectent à la nationale numéro 1 qui est en train de transporter.
Stéphane Kakoulé, Maté, nous demandons aussi au ministre de venir consulter l'ISTA Goma. Il y a des machines conçues par les étudiants qui peuvent aider les cultivateurs congolais pour la transformation des produits champêtres, monsieur le ministre.
Je confirme l'ingéniosité et la grande intelligence qu'il y a à l'ISTA Goma. À décembre, je vais être là-bas. Venez me présenter vos machines. S'il y en a qui marchent très bien, bien évidemment, on va les utiliser.
Gaylor Mandala, Josias, à l'Office de voie des dessertes agricoles, les agents ne touchent pas les primes, mais une liste fictive des agents touche plus de 800 000 francs congolais depuis avril 2023 jusqu'à ce jour. Comment expliquer ce phénomène des payes non connues par les agents? Vous êtes informé, monsieur le ministre?
Je ne suis pas informé, là je viens d'avoir l'information. Tout ce que je sais, effectivement, c'est qu'au ministère du Développement Rural, il y a un grave problème d'impayement. Pas seulement d'impayement, il y a beaucoup d'agents qui ne sont pas payés. Je circule dans tout le pays et je reçois toutes les doléances. Je vois que c'est le ministère où les gens sont moins payés que tous les autres ministères. Et je suis en train de me battre pour mettre fin à cette situation.
Roger Bach, que dit le ministre au sujet de la prise en charge des agents et cadres de l'OVDA et de l'ONHR impayés depuis 25 mois?
En tout cas, c'est la même question. Ça a été créé comme office, on a engagé des gens, on ne les a jamais payés. Et notre lutte, c'est pouvoir voir dans la progressivité. On a négocié avec le ministre de la fonction publique et le ministre du budget pour qu'on puisse avoir une certaine progressivité. Les nouveaux barèmes, moi j'ai signé, j'attends la signature du ministre du budget qui va intervenir récemment pour que nous puissions améliorer les conditions des agents dans les ministères. Il n'y a pas que il y a l'ONCDI, il y a l'ONHR, il y a l'OVDA et il y a une grande partie de la fonction publique qui est régulière.
Il y a le PCA de la Société Coopérative pour la Production Agricole et Animale qui dit nous sommes urgemment en attente du lancement des projets maraîchers, vite fait dans ces provinces.
Oui, c'est le projet Ola surnommé Maman Maraîcher. Alors, Maman Maraîchère, c'était très grand. Celui-là va commencer avec fracas très rapidement, donc. Ayez vraiment la patience. On va travailler d'ailleurs avec les coopératives. Je profite pour demander à tous ceux qui ont des coopératives, mettez-vous en ordre avec les ministères. Obtenez votre numéro, puisque nous allons travailler dans tous ces projets avec des coopératives enregistrées. Donc je préfère bien faire passer ce message. Et d'ailleurs, je vous promets que je vais revoir l'article, l'arrêté sur les frais qui sont payés par les coopératives. Je vais les remettre à la baisse pour permettre à toutes les coopératives de se faire enregistrer et de se mettre en ordre.
Nous sollicitons, c'est Gabriel Mboussa, nous sollicitons le ministre à bien vouloir associer les ISDR, voilà, ISDR du pays dans ses actions.
Et notre... Je suis d'accord avec lui, les ISDR, les ICA, des facultés d'agronomie, des facultés de développement, je vais, là où ça sera possible de le faire, je vais vous associer pour que vous puissiez participer à la sensibilisation. C'est très important, je l'ai dit, puisque je vous ai dit que le développement, c'est le changement des mentalités. On a des provinces où déjà vous disent, on ne va pas faire de l'agriculture, ça ne sert à rien, donc on a besoin de tous les techniciens de développement qui sont dans le pays pour pouvoir remobiliser la population pour l'action des productions.
Enoch Ngongo, qui est à Cape Town en Afrique du Sud, vous demande d'aller visiter le territoire de Kongolo, précisément à Katea, où il y a une route qui relie le Tanganyika et le Kasaï. On va prendre ce dernier.
Je vais lui dire que parmi les provinces que je vais visiter, c'est la province, je vais combiner le Maniema avec la province de Tanganyika. Je vais faire Kibombo, Kongolo, Kabalo, Manono, jusqu'à déboucher sur Malemba. Il faut qu'il laisse la patience. J'ai planifié de visiter partout là-bas pour que je puisse tenir compte des spécificités de ces provinces.
On va prendre ce dernier auditeur parce que nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Monsieur le ministre, on a suivi tout ce que vous avez dit ici. Dans 3 mois, on va vous réinviter dans cette émission pour faire le point de tout ce que vous avez annoncé dans cette émission.
Je le ferai volontiers et je voudrais bien effectivement dire que par rapport aux moyens qui sont déjà à ma disposition, le travail va commencer. Je vais continuer à mettre la pression effectivement au ministère des Finances, c'est pas aussi facile, hein, au ministère des Finances, pour qu'il continue. Et nous avons fait des projets de manière un peu modulaire. Si on nous donne 15 millions pour le projet de l'eau, on va essayer de cibler certains sites pour arriver à les terminer. Donc on va y aller progressivement. L'objectif pour nous, c'est d'atteindre tout ce qu'on s'est fixé.
On prend le dernier auditeur qui appelle depuis Kisangani.
C'est Maître Paulin Sengangabo. Je vous appelle depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. Le ministère de développement rural, comme son nom l'indique bien, est un ministère qui donne bien les indicateurs clés pour le développement d'un pays. Mais fort malheureusement, tous les ministres qui passent dans ce ministère ne songent que sur leurs intérêts propres, à travers les frais d'émission exorbitants, détournement des fonds de financement, des projets, et j'en pense. Cela étant, l'air n'est plus aux promesses, mais à la concrétisation de toutes les promesses faites pendant la campagne électorale, les jours de l'investiture du gouvernement souminois. Mais la population constate toujours le contraire jusque-là. Alors, la question que je pose au ministre Nzangi, je pense bien qu'il a déjà fait une tournée dans certaines provinces. Je cite Tchopo, Mongala, Badolite, pour citer que cela. Et il a vu l'état des routes et des déserts agricoles. Alors, combien de travaux qui sont déjà lancés pour les réhabilitations? Qu'est-ce qui bloque la réhabilitation des différentes routes et des déserts agricoles dans les milieux ruraux, dans les milieux ruraux? L'argent ou la mauvaise foi de certaines personnalités politiques au pouvoir? Est-ce que, monsieur le ministre, vous songez au moins aux agents qui travaillent dans les différentes divisions du ministère du développement rural dans les provinces? Quelle est votre politique déjà apportée dans ce ministère qui aidera les pays demain comme jurisprudence?
Alors, je suis très content quand je reçois des questions de Tchopo. Et c'est une province que je connais bien, que j'aime bien. Je suis arrivé à Bouta, dans les Bazouélé. Et quand j'ai vu l'état de la route, la RN4 qui fait Bouta à Kisangani, j'ai réuni les deux gouverneurs ici à mon ministère et je les ai proposés et mécanisme pour commencer à entretenir cette route-là. Si vous voyez, maître, vous qui avez posé la question, les travaux qui sont en train de s'effectuer ici, la RN4, Kisangani-Banalia, et notre cohorte qui vient de Bouta, qui est déjà au niveau de Télé, qui va se rencontrer effectivement sur la rivière, notamment à Banalia, c'est votre humble serviteur qui est en train de les faire. Et nous les faisons, puisque nous ne pouvons pas faire les routes de cette agricole dans ces endroits-là si cette route nationale n'est pas réhabilitée. Malheureusement, la RN4 du côté de Bafassende, elle est aussi fermée, mais nous avons demandé à notre collègue, le ministre des ITPR, de pouvoir s'y concentrer pour nous permettre de pouvoir faire des bretelles, puisque nous, nous sommes le musée de développement rural, nous entretenons les routes de cet agricole pour nous permettre de faire des bretelles. Moi-même, je suis fermier à Kisangani, et donc, même en tant qu'individu, j'ai un intérêt pour que les routes de Kisangani puissent être réhabilitées. Je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de mauvaise foi. Nous avons fait projet, nous avons aujourd'hui un ministre des Finances et un ministre des Budgets qui sont formidables, qui sont sensibles à ces questions de développement. Et je crois que si ce rythme, il nous donne un bon rythme de caissement d'efforts dans ce projet, en tout cas, on va arriver au résultat.
Monsieur le ministre Mindo Nzangi, ministre d'État, ministre du Développement Rural, c'est un plaisir de vous recevoir dans ce spécial dialogue entre Congolais. On espère que vous reviendrez pour qu'on fasse le point, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur tout ce que vous avez annoncé dans cette émission. Voilà, merci. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot.
Non, le dernier mot, c'est pour dire que le président Antoine Tshisekedi nous a demandé de tout faire pour améliorer les conditions de vie des populations en milieu rural, et c'est le travail que nous nous sommes attelés à faire, et on va bien le faire.
Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Dona Madimba qui a réalisé cette émission. Polydor Basunga était à la mise en onde derrière les caméras. Jonathan Fonani et Hervé Vauquin, coordination et présentation, Kéline Kouté, Martin Seboujangoué a supervisé ce programme. Restez branchés sur la fréquence de la paix.